Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Le catholicos arménien de Cilicie, Aram Ier, était reçu ce jeudi au Vatican. Le pape François saluait son engagement dans la promotion de l'unité des chrétiens. Il a également évoqué l'histoire douloureuse du peuple arménien. On y revient dès le début de ce magazine. Vous entendrez le témoignage d'Aram Ier. Le Saint-Père dénonce les nouvelles formes d'esclavage dont sont victimes les Roms. Il recevait les participants à une rencontre internationale sur le thème « L'Église et les Roms, annoncer l'Évangile dans les périphéries ». Dans cette édition également, gros plan sur le 70e anniversaire du débarquement en Normandie, entretien avec l'évêque de Coutances et d'Avranches. Bienvenue dans ce magazine. Le pape François reçut ce jeudi matin au Vatican Aram Ier, catholicos de l'église arménienne de Cilicie, qui fut aussi le président du comité central du Conseil œcuménique des églises. Une rencontre en privé, puis avec la délégation arménienne et un moment de prière commune. Dans son discours, le Saint-Père s'est réjoui de la visite d'Aram Ier, qui intervient un mois après celle du catholicos suprême de tous les Arméniens, Karekin II, saluant son engagement concret pour la promotion de l'unité des chrétiens. Manuela Figi.
L'engagement du catholicos en faveur de l'unité des chrétiens est bien connu, affirme le pape, ainsi que son travail mené auprès du Conseil des Églises du Moyen-Orient pour soutenir les communautés chrétiennes de la région confrontées à de nombreuses difficultés. Le pape a ensuite évoqué l'histoire semée d'épreuves et de souffrances du peuple arménien, contraignant l'Église apostolique arménienne à devenir un peuple pèlerin.
La Chiesa apostolica armena si è trovata costretta.
L'histoire d'émigration, de persécution et de martyrs de si nombreux fidèles a laissé de profondes blessures dans les cœurs de tous les Arméniens, déclarait le pape. Nous devons les voir et les vénérer comme des blessures du corps même du Christ, car elles sont aussi à la base d'une espérance sans faille et d'une confiance dans la miséricorde du Père.
Fiducia e speranza. Ne abbiamo tanto bisogno.
Une confiance et une espérance dont nous avons tant besoin, ajoutait le pape, et surtout nos frères chrétiens du Moyen-Orient, en particulier ceux qui vivent dans les zones frappées par les conflits et la violence. Le pape a ensuite évoqué la fête toute proche de la Pentecôte pour demander que l'Esprit Saint renouvelle la face de la terre, soit une force pour guérir les blessures du monde et réconcilier les cœurs de tous les hommes avec le Créateur. Les deux hommes se sont ensuite rendus dans la chapelle Redemptoris Mater pour un temps de prière commune.
Aram Ier s'est déjà rendu deux fois au Vatican pour rencontrer Jean-Paul II en 1997 et Benoît XVI en 2008. Il l'a rappelé ce jeudi en s'adressant au pape François, soulignant que ces rencontres avaient permis d'approfondir une amitié particulière et de renforcer la collaboration œcuménique. Le catholicos arménien de Cilicie a par ailleurs évoqué la situation des églises au Moyen-Orient et les défis énormes, les grandes difficultés, les profondes préoccupations auxquelles sont confrontés les fidèles, saluant le récent voyage du Saint-Père en Terre Sainte. Jean-Baptiste Cocagne l'a rencontré ce jeudi matin.
Il faut non seulement préserver, garder, mais fortifier la présence et le témoignage chrétien au Moyen-Orient. Et solidarité du Saint-Père et du Vatican, c'est très important pour nous. J'ai dit vraiment, c'était un voyage très important, un voyage d'espérance, un voyage avec des signes positifs de réconciliation, de dialogue, de rapprochement entre Israël et Palestine, et aussi pour nous particulièrement, pour les chrétiens. Dans cette conjoncture, ce que nous besoin comme chrétiens, c'est l'unité chrétienne. C'est pour ça qu'il faut mettre à côté toutes les divergences théologiques que nous avons héritées de notre passé. Il faut donner une manifestation plus existentielle, plus tangible de l'unité chrétienne. Donc, la visite du Saint-Père, c'était vraiment un message, un défi pour nous chrétiens, hein, pour manifester notre unité ensemble dans cette conjoncture cruciale de l'histoire contemporaine du Moyen-Orient.
Est-ce que déjà, par exemple, vous avez parlé de choses concrètes à faire ensemble ?
Oui, nous sommes déjà engagés dans le dialogue théologique. Il y a des dialogues bilatéraux entre l'Église du Rome et l'Église orthodoxe. Il faut continuer ce dialogue, c'est très important. Mais sur l'autre plan œcuménique, la collaboration, relation, être ensemble, engagé dans les projets ensemble, ce sont des choses très importantes. Et nous avons la pleine bénédiction de Saint-Père. Écoutez, comme chrétiens, pour nous, l'espérance et l'amour sont très importants. Mais il faut traduire l'espérance et l'amour en action concrète dans notre vie au Moyen-Orient. Être ensemble, comme j'ai dit, comme chrétiens, malgré nos divergences, c'est un défi pour nous. On ne peut pas vivre en isolement. Nous sommes chrétiens. Il faut parler avec une voix. C'était le message de Saint-Père. Et il faut répondre à ce message avec un sens de responsabilité.
Le pape avait organisé une journée de prière pour la Syrie en juin de l'an dernier. Ses gestes pendant son voyage en Terre Sainte ont marqué déjà le monde entier. Est-ce que vous pensez que le Vatican et le pape peuvent avoir un rôle marquant et déterminant au Proche-Orient ?
La solidarité du Vatican, du Saint-Paul est très importante pour nous. Ce n'est pas pour la première fois qu'on voit la solidarité. Le Saint-Père, les prédécesseurs de Saint-Père, ont toujours été avec l'Église du Moyen-Orient. Dans plusieurs occasions, ils ont exprimé concrètement leur solidarité avec nos églises au Moyen-Orient. C'est pour cela, je pense, la visite du Saint-Père à Jérusalem, c'était vraiment une étape très importante. En visitant Jérusalem, le Saint-Père a donné plus visibilité à cette solidarité du Vatican envers les chrétiens d'Orient.
Ce voyage en Terre Sainte, c'était aussi pour marquer l'anniversaire entre Athénagoras, la rencontre entre Athénagoras et le pape Paul VI. Sur le chemin de l'œcuménisme, c'est une nouvelle étape véritablement qui a été marquée avec cette rencontre entre le pape François et Bartholomée.
Toute l'Église doit être dans ce chemin de l'œcuménisme. C'est un pèlerinage continuel et spirituel envers l'unité chrétienne. L'Église, l'essence même de l'Église, c'est le pèlerinage. L'Église, c'est un pèlerin continuel. Donc, il doit participer plus activement, avec sens de responsabilité et engagement dans ce pèlerinage. L'Église arménienne, et particulièrement le catholicos arménien de Cilicie, et activement, et sérieusement, et pleinement, est engagé dans ce pèlerinage spirituel.
Aram Ier, catholicos de l'église arménienne de Cilicie, un entretien retrouvé sur notre site internet www.radiovaticana.va. Les Roms sont victimes de nouvelles formes d'esclavage. Le pape François s'adressait ce jeudi matin aux participants à une rencontre internationale qui s'est tenue au Vatican sur le thème « L'Église et les Roms, annoncer l'Évangile dans les périphéries ». Dans son discours, le Saint-Père s'est attardé sur les conditions des Roms, insistant sur la nécessité d'élaborer de nouvelles approches, y compris dans la stratégie pastorale de l'Église. Bernard de Cotigny.
Souvent, en marge de la société et parfois perçus avec hostilité et suspicion, les Roms ne sont pas assez impliqués dans les dynamiques politiques, économiques et sociales. Or, insiste le pape, ce sont les personnes les moins protégées qui tombent dans le piège de l'exploitation, de la mendicité forcée et de diverses formes d'abus. Les groupes les plus faibles sont ceux qui deviennent plus facilement victimes des nouvelles formes d'esclavage. Les Roms sont parmi les plus vulnérables, a insisté le Saint-Père. Il est plus que jamais nécessaire d'élaborer de nouvelles approches dans les milieux civils, sociaux et culturels, ainsi que dans la stratégie pastorale de l'Église, afin de faire front aux défis qui émanent des formes nouvelles de persécution, d'oppression et parfois aussi d'esclavage. Le pape François conclut sur un encouragement à tous ceux qui œuvrent au sein de l'Église en faveur des Roms. Soyez pour eux le visage accueillant et joyeux de l'Église.
Dans son discours au pape, le cardinal Antonio Maria Velio, président du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement, a indiqué que les Roms étaient en train de vivre une période de passage, d'une vie itinérante à une plus grande stabilité, mettant l'accent sur l'urgence pour l'Église d'élaborer une nouvelle approche dans ses différentes structures. La Normandie célèbre avec face et émotion le 70e anniversaire du débarquement. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, des troupes aéroportées sont larguées sur les côtes normandes juste avant les premières vagues d'assaut des combattants alliés à l'aube du 6 juin sur les plages d'Utah et d'Omar. Un D-Day commémoré en grande pompe, la journée de vendredi s'ouvrira sur un hommage rendu par le président français François Hollande aux victimes civiles devant le mémorial de Caen. La cérémonie internationale à la mémoire des nombreux morts du débarquement se tiendra dans l'après-midi à Ouistreham. Un millier d'anciens combattants de toutes nationalités y sont attendus, aux côtés de 19 chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels la reine Elisabeth II d'Angleterre, le président américain Barack Obama, la chancelière allemande Angela Merkel et le président russe Vladimir Poutine. Plusieurs diocèses s'associent à ces commémorations. Expositions, concerts, spectacles, messes, marches pour la paix, autant de rendez-vous proposés dans plusieurs villes de France. Par ailleurs, vendredi matin, à 9h, les cloches des églises et chapelles de la Manche sonneront à toute volée. Nous en parlons avec Mgr Laurent Lebouche, évêque de Coutances et d'Avranches.
Pour notre part, on essaie de faire en sorte que ce ne soit pas simplement le lieu du souvenir, mais vraiment le lieu d'actualisation d'un devoir de construction de la paix qui s'impose à nous au titre de l'Évangile. Et puis, en tant que pasteur, c'est aussi découvrir combien l'Église s'est faite présente dans ce mouvement de reconstruction suite à la guerre. Les prêtres, les religieux, les baptisés ont vraiment participé, retroussé leurs manches de façon très concrète pour venir en aide aux plus démunis, pour redonner de l'espérance dans ce grand élan de la libération. On essaye aussi d'en faire un message pour tous, notamment pour les plus jeunes générations, pour qu'on n'oublie pas et qu'on s'inscrive un peu dans cette dynamique de la reconstruction qui est toujours à vivre.
Par quoi ça se concrétise? Par quoi vous le voyez concrètement?
D'abord par le nombre de personnes qui participent à ces commémorations, pas simplement pour le 70e, mais pour le 11 novembre par exemple, j'ai été frappé par le nombre de personnes qui sont là. Le désir de transmettre aux jeunes générations, c'est quand même assez présent. Et puis il faut voir le nombre de commémorations qu'il va y avoir. Chaque commune propose un temps de célébration, de cérémonie liée au fur et à mesure qu'avancent les dates de l'anniversaire de la libération. Ce que je constate, c'est qu'il y a un vrai désir partagé par tous les organisateurs pour de plus en plus ouvrir. Alors peut-être qu'il faut aussi inventer d'autres modes d'expression. Donc hier soir, il y a eu un jeu scénique réalisé par des jeunes Normands avec des jeunes Américains et des jeunes Allemands. C'était magnifique, pour évoquer un peu d'une façon très contemporaine, à la fois la guerre, mais aussi l'urgence de travailler à la paix. Et là, les jeunes, ils sont rentrés mais avec bonheur. Et c'était comme si les plus jeunes invitaient les plus anciens. Là, le rapport était inversé. À aller jusqu'au bout de la commémoration pour actualiser aujourd'hui le message de paix. Je pense que les plus âgés, le risque est d'en rester au souvenir. Les jeunes, c'est qui manquent de souvenirs, c'est plutôt de passer dans le rêve. Et je pense que le lien entre les générations permet justement de se nourrir de l'expérience passée, de la sagesse qu'elle peut nous donner, et puis de se laisser porter par un idéal, qui est celui de la jeunesse en général.
Il y a aussi une dimension écuménique dans l'hommage qui sera rendu.
Célébrer la paix, ça nous met en question, nous, en tant que chrétiens. C'est notre témoignage d'unité avec toutes les confessions, et dans chaque confession même, puisque c'est bien que parfois, il y a des quelques frottements dans la communauté chrétienne. Donc je crois que c'est un signe important qui est posé, que le message de paix, il est aussi une invitation pour l'Église à faire œuvre d'œcuménisme.
Il y aura un hommage particulier dans votre diocèse. Les cloches de toutes les églises sonneront vendredi matin à 9h en souvenir des victimes. Ça fait l'objet d'ailleurs d'un partenariat avec le Conseil Général de la Manche. Pourquoi la cloche comme ça, c'est une façon de rendre hommage et dans l'église et dans une république laïque?
Ça peut paraître surprenant. Pour l'église, la cloche, la pleine résonance, si j'ose dire. Ici, ce sera plutôt des cloches de la joie. Quand la libération a eu lieu, les cloches ont sonné partout, donc je pense que ça permet aux gens de revivre un peu ces moments-là pour ceux qui l'ont connu. Donc il y aura beaucoup d'émotions, de joie, parce qu'on a besoin aussi aujourd'hui de ces moments de joie. Pour le chrétien, la cloche est la messagère de l'évangile, de l'appel, l'appel à la prière, l'appel à aller plus loin. Donc c'était une belle manière pour l'Église de participer à cette démarche qui rassemble vraiment tout un peuple, tous les gens de la Manche.
Des propos recueillis par Jean-Baptiste Cocagne. Dans un message signé par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement, le pape François rend hommage aux nombreux soldats qui ont quitté leur pays pour débarquer sur les plages de Normandie afin de lutter contre la barbarie nazie nazis et libérer la France occupée. Le Saint-Père souligne que cette commémoration nous rappelle que l'exclusion de Dieu de la vie des personnes et des sociétés ne peut apporter que mort et malheur. Il y a 10 ans, le 6 juin 2004, lors des commémorations du 60e anniversaire du débarquement, le pape Jean-Paul II avait demandé au cardinal Ratzinger de le représenter. Il avait alors livré à Caen une méditation sur la guerre juste, une réflexion peu médiatisée à l'époque, mais qui préfigurait la pensée de celui qui allait devenir moins d'un an plus tard, le pape Benoît XVI. Le cardinal Ratzinger avait salué l'offensive des alliés, la qualifiant de nécessaire pour faire sauter l'anneau de l'action criminelle des nazis. La légitimité de cette intervention démontrait, selon lui, le caractère insoutenable d'un pacifisme absolu. Que la capitale de la Biélorussie accueillait jusqu'à ce jeudi le 4e Forum orthodoxe catholique européen, une rencontre organisée par le Conseil des conférences épiscopales d'Europe et les églises orthodoxes d'Europe sur le thème « Religion et diversité culturelle, les défis pour les églises chrétiennes en Europe ». Une réflexion a été menée sur la réalité culturelle en Europe, la reconstruction morale du continent ou encore la liberté religieuse, avec comme objectif de définir des positions communes sur des questions sociales et morales. Parmi les participants, Mgr Roland Minrat, archevêque de Dijon, il s'attarde sur l'écart qui se creuse entre la vision du monde en Europe et la vision chrétienne, et plus généralement sur les relations entre orthodoxes et catholiques.
L'événement du Christ, la morale que le christianisme apporte, n'est pas contradictoire avec la morale humaine. Il révèle la plénitude de la morale humaine. Il la purifie de ce qui n'est pas vraiment humain et il l'élève. Grâce au Christ, nous recevons la grâce de la vie nouvelle qui permet de vivre les valeurs de l'humanité et toujours à être purifié par elle. Et on s'aperçoit d'une chose, dans l'Europe d'aujourd'hui, la modernité a rompu les liens avec la tradition chrétienne. Et qu'est-ce qu'elle promet comme référence morale? Il n'y en a plus. Tandis que dans la vision que nous proposons, mais à tous, de la morale, nous disons que l'homme a besoin d'être perpétuellement ressourcé, régénéré. Nous retournons à la source qui est la parole de Dieu et qui est le Christ lui-même qui se donne à nous dans sa grâce et qui est capable de transformer l'homme. Et donc la moralité, de lui donner un sens. S'il n'y a plus de fondement pour la vie morale, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste la décision des majorités qui font des lois selon les désirs des uns ou des autres. Alors, ça peut dériver dans tous les sens ce à quoi on assiste. D'où pour nous, chrétiens, qu'on soit catholiques ou orthodoxes, un énorme défi à relever, faire comprendre à ce monde que le christianisme ne vient pas du tout le brimer ou le rendre malheureux, mais pour lui dire avec clarté vers où nous allons et qu'on ne peut pas bâtir un vivre ensemble s'il n'y a pas un minimum de valeurs partagées.
Et qu'est-ce que ce forum nous apprend sur les relations entre orthodoxes et catholiques?
Là, nous sommes sur un terrain où nous nous rejoignons parfaitement et où nous découvrons que nous avons en commun presque tout, sauf quelques questions relatives à l'ecclésiologie. Mais ce n'est pas sur ces questions-là que nous débattons. Ici, nous rejoignons pour voir comment l'identité chrétienne a encore sa place dans l'Europe d'aujourd'hui, dans la diversité même des situations culturelles où se trouvent nos pays. Et donc, sur ces questions où on approfondit les origines de la morale chrétienne, de l'identité chrétienne dans le monde d'aujourd'hui, à partir de la foi qui nous est commune, là nous nous rejoignons. Et donc les relations entre catholiques et orthodoxes ne peuvent que s'en trouver renforcées, sur ce plan-là en tout cas.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. À l'occasion de cette rencontre, le pape, dans son message aux participants, avait appelé à la protection de la liberté religieuse en Europe, en souhaitant que les chrétiens européens sachent toujours, avec douceur et respect, exprimer l'espérance qui est en eux. « C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.